Il est 7h28 minutes. Eh bien, le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État a des échos jusqu'à l'ONU. Trois experts nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies expriment leurs préoccupations à l'égard du projet de loi sur la laïcité de l'État. Et dans une lettre qui a été transmise à la mission permanente du Canada auprès de l'ONU, ben, les rapporteurs spéciaux pour les questions relatives aux minorités, au racisme et à la liberté de religion demandent des précisions sur ce projet de loi. Avec nous, Fernand Devarenne est l'un des rapporteurs spéciaux de l'ONU. Bonjour, M. Devarenne.
Bonjour, M. Lacroix. Comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même.
Moi, assez bien, merci.
Alors, qu'est-ce qui vous inquiète dans le projet de loi 21?
Eh bien, c'est qu'on a quand même certaines préoccupations parce que le projet de loi n'a pas assez de précision. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en l'absence, par exemple, de définition de symboles religieux, ça pourrait mener à des interprétations qui seraient potentiellement discriminatoires. Donc, essentiellement, on demande des clarifications pour voir un peu mieux si les obligations internationales en matière des droits humains sont respectées, si on en a tenu compte, en fait, en matière de ce projet de loi.
Bon, est-ce qu'on explique parce que cette question-là a déjà été posée en commission parlementaire qui étudie le projet de loi à l'Assemblée nationale au Québec. On dit oui, mais on a décidé de ne pas faire de distinction ou de ne pas préciser, si on veut, ce que sont les signes religieux parce qu'on veut les inclure tous dans cette loi-là, sans discrimination en regard de la religion.
Mais là, la difficulté, c'est exactement c'est quoi des symboles religieux? Est-ce que vraiment n'importe quoi peut devenir un symbole religieux ou pas? Donc, l'absence de définition, quand même, ça pourrait mener à des situations discriminatoires ou plutôt discrétionnaires et peut-être même arbitraires. Et là, c'est pour ça que ce document que vous avez mentionné, c'est pas une détermination. C'est qu'on n'a pas conclu qu'il y a violation, mais on demande des précisions afin de voir si vraiment les obligations internationales en matière de droits humains sont respectées ou non, ou d'avoir certaines précisions pour répondre à ces préoccupations.
Évidemment, quand on parle de signes religieux, le premier qui nous vient tout de suite en tête, c'est le port du hijab, par exemple, dans la religion musulmane. Est-ce que, justement, le fait que il y a quand même des signes religieux qui soient portés exclusivement par des femmes, c'est le cas par des hommes aussi remarqués avec la kippa dans la religion juive, mais est-ce qu'il y a une préoccupation en regard du droit des femmes, justement, dans cette loi-là?
Mais disons que c'est un élément qui est mentionné, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des précisions sur les effets possibles, si on a tenu compte, qu'il pourrait y avoir pour certaines minorités religieuses, des effets plus concrets et plus directs, y compris chez les femmes, mais pas exclusivement. Vous savez, il y a quand même d'autres religions où ce sont les hommes qui doivent porter certains éléments de symbole. Pensez à la minorité sikh, par exemple, et le port du turban chez les hommes. Donc, il y a certainement, et en particulier par rapport à la prestation de services, que nous avons également indiqué des préoccupations, et on cherche à obtenir des précisions, des renseignements additionnels, pour voir si, par exemple, les obligations internationales qui doivent être respectées en matière de droits humains, c'est pas en train d'être risqué, en fait.
Est-ce qui vous préoccupe, c'est la prestation d'un service par un employé de l'État ou la réception par un citoyen à visage? Parce que ce que dit la loi, c'est que pour recevoir un service, il faudra aussi qu'un citoyen ait le visage découvert.
Ben, c'est les deux, finalement. Parce que, par exemple, même pour ce qui est de la prestation de service, par exemple, les personnes qui, en raison de religion, pourraient souhaiter porter ou croire dans le port de certains symboles religieux, est-ce que, par exemple, ils vont être exclus de certains domaines d'emploi? Et je crois que c'est une préoccupation qu'on doit chercher à clarifier. Et surtout, et là j'insiste là-dessus, on doit voir s'il y a des restrictions qui affectent finalement la manifestation de la foi d'une personne, de sa religion, bien vous savez, il y a quand même des limites. On ne peut pas tout simplement interdire tous les symboles religieux. En droit international, il faut démontrer pourquoi c'est nécessaire de restreindre la manifestation de la foi de la religion d'une personne.
OK. Mais il y a quand même d'autres pays, il y a plein de pays dans le monde, entre autres la France est sans doute l'exemple qu'on cite le plus souvent, qui a déclaré la laïcité de l'État, qui interdit le port de certains signes religieux. Pourquoi est-ce que le projet de loi 21 a une attention particulière de votre part?
La chose a été présentée, c'est que nous avons reçu des informations, des renseignements émanant d'individus et d'organisations non gouvernementales,
ouais,
à l'effet qu'il y avait des préoccupations, des incertitudes, et qu'il faut faire très attention de ce côté-là. Vous savez, c'est pas avoir une loi ou un projet de loi sur la laïcité qui est en cause.
Mm-hmm.
C'est la question de qu'est-ce que prévoit justement, qu'est-ce qui est prévu dans ce texte, et est-ce que ça peut porter atteinte aux droits fondamentaux,
ouais,
de membres de minorités religieuses. Et surtout qu'au niveau international, on ne permet pas de restreindre la liberté de religion, par exemple, à moins que ce soit absolument nécessaire pour protéger certains domaines très particuliers, par exemple la sécurité, l'ordre, mm-hmm, la santé publique, ou la morale ou les libertés droits fondamentaux d'autrui. Alors, ce que nous demandons, c'est en quoi justement c'est nécessaire de restreindre la liberté individuelle pour l'un de ces motifs, sans quoi il peut, ouais, avoir une atteinte finalement à certaines obligations internationales.
Et évidemment, pour réussir à restreindre certains droits, on a recours à ce qu'on appelle la clause dérogatoire, là, qui est prévue dans la Constitution pour permettre justement aux provinces de suspendre certains articles des chartes des droits et libertés. Est-ce que ça, c'est un sujet de préoccupation également de votre part?
Tout à fait, parce qu'au niveau du droit international, des droits humains internationaux, ce genre de clause dérogatoire, si vous voulez, n'existe pas.
Ouais.
Il faut absolument respecter tous les droits humains. Mais on permet quand même certaines limites, certaines restrictions, si c'est nécessaire pour les domaines que j'ai mentionnés plus tôt, sécurité, ordre, santé publique et la protection des droits d'autrui.
Quelle est la portée de ce que vous faites, de votre démarche? Parce que ce que je comprends, c'est que l'avis que vous émettez sur ce projet de loi-là n'a pas force de loi, ne peut pas s'appliquer au Québec ou interdire ou venir contrecarrer l'application éventuelle du projet de loi 21, si tant est qu'il sera adopté par l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Vous avez quoi, un pouvoir de recommandation ou un pouvoir d'observation?
Pouvoir de recommandation, pouvoir aussi, si vous voulez, au niveau que certaines obligations morales et même, je dirais, politiques, parce que ce sont des obligations internationales qui s'appliquent et au Canada et au Québec.
Ouais.
Et je ne crois pas que ni le Canada ni le Québec souhaitent être perçus au niveau international comme faisant fi des droits humains, des droits de la personne.
Mm-hmm.
Parce qu'en tant que démocratie, on a comme élément fondamental le respect des droits humains.
Et là,
c'est de ce côté dont on parle.
Ouais, ouais. Et là, votre lettre a été envoyée. C'était, je pense, vous avez reçu une communication le 17 mai, c'est ça? Quelles sont les suites à donner justement à votre demande d'information auprès du gouvernement du Québec?
Lorsque nous aurons reçu les renseignements du gouvernement, nous serons en mesure de regarder cette situation de plus près et de voir s'il y a d'autres mesures qui sont en ordre dans le sens de recommandation ou d'avis, si vous voulez, sur la situation. En ce moment, il y a aucune conclusion. Hein.
Ouais.
On n'est pas en train d'indiquer qu'il y a une atteinte aux droits humains au niveau international. Nous souhaitons tout simplement obtenir des précisions et nous avons émis certaines préoccupations.
Auriez-vous aimé être convoqué à la commission parlementaire qui a étudié jusqu'à la semaine dernière là justement le projet de loi 21? La commission parlementaire est pas terminée, mais il y avait des consultations qui recevaient des groupes. Est-ce que vous auriez pu venir présenter votre point de vue à ce sujet-là si vous aviez été invité?
Je pense que c'est très important qu'à l'avenir, si c'est possible, d'avoir en tête les obligations internationales aussi du gouvernement québécois.
Ouais.
Dans des domaines qui sont un peu peut-être, comment dirais-je, où il y a toujours une question d'équilibre un peu difficile. Donc la réponse c'est que oui, ce serait peut-être même une très bonne idée à l'avenir d'avoir en tête ces obligations internationales lorsqu'il y a des projets de loi comme ceux-là.
Donc vous l'avez su trop tard, si je comprends bien, c'est un peu ça.
Pardon?
Vous l'avez su trop tard qu'il y avait ces consultations, sinon vous seriez venu.
Oui.
Ouais.
Oui, oui. Si nous avions été invités, nous aurions fait tous les efforts possibles pour s'y rendre.
Monsieur Devarenne, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous remercie, Monsieur Lacroix. Bonne journée.
Au revoir. Fernand Devarenne est l'un des rapporteurs spéciaux sur les questions relatives aux minorités au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.